Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Olivier Naoum.
Bienvenue dans l'oreille aux aguets. Bonjour Jeanne Bordeaux.
Bonjour Olivier.
Jeanne de l'Institut de la qualité de l'expression. Dernière émission avant la rentrée, dernière émission avant les vacances. Et petite conversation donc autour de ces mots qui ont tintinabulé à nos oreilles. Alors vous savez, Jeanne, moi ce qui a tintinabulé à mes oreilles, ce sont les titres de ces livres que l'on contemplera sur la plage, futurs best-sellers. Il y a par exemple le livre de Claudie Gallet qui nous plonge dans une réalité à La Hague avec un climat assez morose et surtout très venteux. Et le titre, Les déferlantes. Et j'ai trouvé que ça collait bien à notre époque, car on a eu une actualité économique qui a déferlé et on a eu un climat relativement anxiogène. Alors, est-ce que ces déferlantes ont pesé, par exemple, Jeanne, vous qui l'observez de près, sur le vocabulaire des relations économiques ?
Je crois que oui. Je pense que pendant la crise, il y a eu des sources qui ont généré des types de lexique et de vocabulaire. Et notamment, il y en avait beaucoup, vous avez raison, sur le climat. On a parlé de tsunami, d'ouragan, de tempête. Donc, je pense que cette symbolique qui fait que tout à coup, on est hors frontières, c'est mondial, on est dominé par les éléments. Oui, cette peur, elle est là. Et je crois que le titre, Les déferlantes, va séduire un vrai large public très régulièrement dans les mois à venir encore, parce que ça capte quelque chose de rare dans l'inconscient collectif.
Mais alors justement, Jeanne, vous qui, à l'Institut de la qualité de l'expression, scrutez les mots qui peuplent les relations économiques, est-ce que vous avez observé finalement ces définitions ? Parce qu'on a l'impression quand même d'un certain flou dans ce vocabulaire économique qui jalonne pourtant l'actualité. Manager, décideur, cadre, on ne fait plus vraiment la différence.
Alors là, vous êtes en train de passer de cette crise qui était floue et qui n'avait peut-être pas d'acteurs au fait qu'avec cette crise sociale qui se resserre, avec ces séquestrations qui ont lieu, on a envie de feuilleter les journaux à brousse-plume comme on fait tous les deux et de se dire mais qui nomme-t-on comme responsable ? Est-ce qu'il y a ces décideurs et ces décisionnaires dont on nous parlait il y a encore 10 ans qui sont acteurs de cette crise économique ? Et c'est vrai qu'on est en train de scruter les mots. Et on voit bien que, par exemple, décideur a disparu, que le mot responsable a disparu et qu'on a plus des managers, donc des personnes qui gèrent, mais qui peut-être ne gardent pas le cap, qui peut-être ne sont pas ces chefs qui étaient des têtes pensantes d'ailleurs. Donc, qui est responsable de tout cela ? Finalement, ça reste assez flou.
Et dans un monde flou, on peut être tenté par une rupture, par l'envie de fuir ce monde. Et à propos de livres, justement, il y a peut-être un titre qui résume l'état d'esprit de l'époque. C'est ce qu'on annonce comme un best-seller, le dernier livre de Douglas Kennedy, qui s'intitule « Quitter le monde ». Mais l'expression prend un nouveau sens puisque c'est quitter le monde en restant vivant, c'est-à-dire éluder, effacer la réalité quotidienne, être toujours en vie. Mais quitter le monde, c'est peut-être aussi une nouvelle façon de percevoir cette expression, puisque quand on dit de quelqu'un qu'il quitte le monde, on pense évidemment à la tragédie qui termine sa vie. Mais là, c'est un quitter le monde qui nous permet de rester dans ce monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression ?
Je crois qu'elle peut être mise au pluriel, Olivier. C'est-à-dire qu'on pourrait dire quitter des mondes et les mondes, puisqu'on est au fond dans une nécessité de virtuel et on fabrique comme on le veut ces mondes. Donc je crois aussi qu'on dit escape, on dit erase. Donc on est dans une période où on peut jouer avec des touches qui tout à coup nous mettent sur le mode pause.
Mais alors justement, Jeanne, ça veut dire que les mots qui vont marquer peut-être notre été et la rentrée, ce sont des mots influés par cet échappatoire, par exemple embellie, qui nous rappelle évidemment le côté climatique de la conversation, mais qui laisse penser que les choses se sont apaisées. On va aller vers ce vocabulaire de l'échappatoire, de la catharsis ?
Un petit peu, en tout cas, oui, il y a quelque chose de l'échappé. Oui, je crois qu'on a besoin de s'évader et je pense que ces mots vont revenir parce qu'on ne peut pas, comme vous venez de le dire précédemment, quitter, mais par moment, on peut oublier.
Alors justement, comme on va bientôt se quitter, les vacances aidant, le mot qui, selon vous, pourrait tintinabuler positivement à vos oreilles, ma chère Jeanne, dans ces expressions qu'on vient de parcourir et qu'on a parcourues tout au long de cette saison ?
Eh bien, peut-être parce qu'on m'a offert un livre d'entreprise qui est vraiment bien fait et qui travaille sur l'idée de rareté. Je trouve que le mot rareté est un mot qu'on va voir réapparaître parce qu'il est lié avant ses vacances à tout ce qui nous est cher et tout ce qui est précieux. Donc c'est un mot qui aura son importance et on commence de le trouver dans le vocabulaire économique.
Et justement, comme c'est la dernière émission avant que l'été arrive, on pourrait terminer sur cette phrase de circonstance. La vacance du pouvoir fait le pouvoir des grandes vacances. La vacance, c'est un mot qui vous plaît ?
Oui, ça me plaît, mais je n'ai pas tellement envie de partir en vacances, Olivier. Vous avez oublié qu'on aime bien toujours, tous les deux, s'arrêter sur les tics de langage. Donc je voudrais, dans cette émission qui ne cherche jamais à être académique, peut-être qu'on fasse ce dernier salut sur attention à cette façon qu'on a de dire et d'écrire. Et quels sont les tics de l'été ?
À l'éthique de l'été, comme par exemple en fin de compte ou par exemple n'importe comment à chaque bout de phrase pour rester en contact avec son interlocuteur.
Ou toutes ces petites formules qui vous agacent parce que vous y êtes particulièrement sensible.
Oui, comme par exemple ce « yes » quand on a réussi quelque chose avec un geste de la main. « Yes » comme ça, ça, c'est insupportable quand même.
Oui, et qu'est-ce qui vous agace d'autre ?
Ce côté victorieux et un peu facile de faire croire à une solennité de l'expression alors qu'on pourrait dire simplement « je suis content, j'ai réussi ». On essaye de surdoser son effet. Vous ne trouvez pas ça un peu trop baroque ?
Je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de petits mots de cet ordre qui parasitent la langue, mais je pense qu'il y avait un peu de fonction linguistique à cela qu'on a toujours connu et dont on a pu parfois parler, c'est agir sur son destinataire et c'est aussi se relier. Et ces petits mots servent à cela. Et je crois que dans un moment où on est perdu, on les voit foisonner parce que comme on ne contextualise plus un propos quand on parle, peut-être qu'une façon de remplacer ce manque d'introduction et de lien à l'autre, eh bien c'est par ces petites expressions qui pourraient ressembler à une forme d'allô jeté vers celui auquel on parle.
Donc attention à ne pas parasiter ces phrases, même pendant l'été. Et puis garder le sens de la langue et continuer à observer le monde des mots à rebrousse-poil. C'est le sermon que vous faites pour cet été, Jeanne.
Oui, puis lisez beaucoup avec tous ces titres qu'on a laissés s'égrener. Il y a bien des lectures que vous pouvez mener et faire. Alors, jolie promenade.
Jolie promenade au pays des mots et à très bientôt pour une nouvelle aventure de l'oreille aux aguets.